20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Nous nous intéresserons ce soir à l'évolution de la facture instrumentale, celle du piano, à travers l'une des plus célèbres marques, Steinway, particulièrement en pointe en matière d'innovation, notamment avec son système Spirio. Enzo Ungauer, notre invité ce soir, nous éclairera sur cette invention alliant la tradition et la nouvelle technologie. Et puis avec notre voyageuse du jeudi, Emmanuelle Giuliani du quotidien La Croix, nous nous offrirons ensuite une petite escapade à Cleveland. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Quelques jours après y avoir dirigé sa Staatskapelle de Berlin, Daniel Barenboim sera de retour la semaine prochaine, mardi et mercredi soir, à la Philharmonie de Paris, en tant que pianiste et en tant que chef. Il donnera ainsi deux concerts dans le cadre de la Biennale Boulez avec son fils, le violoniste Michael Barenboim, le clarinettiste Jörg Winmann, l'ensemble Boulez, mais aussi Gilbert Nuno, avec qui Daniel Barenboim jouera notamment le clavier bien préparé de Philippe Manoury pour piano et électronique. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo accueillera ce dimanche le chef italien Giovanni Antonini ainsi que le pianiste Christian Bezuidenhout. Ce sera à 15h, salle Garnier. Giovanni Antonini, venu du monde baroque, mais dont on connaît et apprécie également le travail à la tête d'orchestre jouant sur instruments modernes. Des musiciens auxquels il s'est insufflé une dynamique, un souffle des plus rafraîchissants, en particulier dans le répertoire classique viennois. Alors ce dimanche à Monaco, Giovanni Antonini dirigera Haydn, Gluck, Mozart, le 22e concerto pour piano, ainsi que Beethoven, la 4e symphonie. Christian Bezuidenhout, qui est aussi au cœur de l'actualité discographique puisque paraîtra demain sous le label Channel Classics, son nouvel album, un bel album enregistré avec la violoniste Rachel Podger, tous deux jouant sur instruments d'époque, Christian Bezuidenhout alternant ici le clavecin et le pianoforte. Alors au programme des sonates de Carl-Philipp Emanuel Bach, des pièces, comme nous le rappelle la violoniste, qui ont été éclipsées par les sonates viennoises classiques de Mozart et de Beethoven, mais une part de son génie, nous dit-elle à propos de ce corpus de Carl-Philipp Emanuel Bach, tient à ce qu'il est empli de surprises et de tournures imprévisibles. Rachel Podger nous en offre en tout cas avec Christian Bezuidenhout une interprétation aussi vivante que subtile et colorée. Thank you. Le final, l'allegretto siciliano d'une sonate en si mineur de Carl Philipp Emanuel Bach par la violoniste Rachel Podger et Christian Bezuidenhout qui était ici au pianoforte, un extrait de ce bel album dédié à Carl Philipp Emanuel Bach qui paraîtra demain chez Channel Classics.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est un nom, c'est une marque qui fait rêver tous les amoureux du piano, qui rime avec tradition, mais aussi innovation, car les pianos Steinway n'en finissent pas de se perfectionner, d'évoluer avec les nouvelles technologies. En témoigne notamment le système Spirio, qui permet de jouer, mais aussi d'enregistrer, d'isoler le jeu d'un interprète et le reproduire même sans lui. L'une des dernières innovations de Steinway & Sons, que nous allons donc évoquer ce soir avec Enzo Ungauer, responsable du marketing et des relations avec les artistes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors avant de parler de nouvelles technologies, un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui fait de Steinway, depuis sa création, c'était en 1853, l'un des instruments les plus joués au monde ?
Alors c'est tout d'abord une vision, je crois, celle de notre fondateur, Henry Steinway, qui est allemand à la base, qui s'appelle Heinrich Steinweg et qui immigre aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Avec une vision, celle de fabriquer le meilleur piano possible. Aujourd'hui, j'aime ajouter sans contrainte de coût ni de temps, puisqu'on source les bois aux quatre coins du monde, notamment en Alaska, pour notre table d'harmonie, et sans contrainte de temps, puisqu'il faut aujourd'hui encore une année pour fabriquer un piano Steinway.
Et comment pourrait-on décrire l'identité, l'esthétique d'un piano Steinway ? Qu'est-ce qui le rend reconnaissable, par exemple ?
Alors, c'est assez paradoxal parce qu'en effet, il y a une trame de son, notamment les aigus, on dit perlés de Steinway, ouais, qui sont très caractéristiques. Mais en même temps, chaque piano a sa personnalité propre. Les artistes demandent toujours à choisir un piano parce que le travail est encore aujourd'hui à hauteur de 80% manuel. Et donc, le mouvement, la main de l'homme ne fait jamais deux fois exactement le même mouvement. Il n'y a pas deux arbres qui poussent de la même manière. Donc, chaque piano est unique. Il y a toujours une sélection qui est demandée. Dans la trame, il y a toujours cette palette de dynamique. Néanmoins, ouais, ça revient très souvent dans la bouche des artistes. Avec Steinway, on peut construire le son. On peut fabriquer le son. On n'est pas tenu dans un registre uniquement. Et on peut, avoir énormément de possibilités de dynamique, de couleur, et très souvent c'est ce qui plaît le plus aux artistes. Également, le pianiste, c'est un des seuls musiciens classiques qui ne voyage pas avec son instrument.
Oui, donc il doit s'adapter à chaque fois et trouver l'équivalent, ou en tout cas un instrument qui lui permet de s'exprimer comme il l'avait anticipé.
Voilà, tout à fait. C'est rassurant, c'est la sécurité au système.
Alors, c'est un instrument qui a beaucoup évolué depuis 1853. Quelles ont été les principales évolutions des pianos Steinway ? S'il fallait retenir quelques innovations dans son histoire ?
Alors, en effet, l'innovation très très forte dès le tout début, il y a plus de 140 brevets qui sont développés,
ah oui,
par Henry Steinway et par ses fils, notamment Théodore, qui est très technicien. Et parmi les brevets les plus remarquables, très certainement, la façon de fabriquer la ceinture, qui est la pièce communément appelée le meuble, qui chez Steinway n'est pas un meuble, puisqu'elle participe aussi à la production et à la longueur de son, qui est un cintrage tout à fait particulier en une seule opération. Et puis la table d'harmonie dite diaphragmatique, un brevet qui date de 1936, qui permet une palette de dynamique à nouveau agrandie par rapport au piano d'avant, qui repose sur une forme effilée sur les bords et qui permet vraiment au son de durer très longtemps et de proposer une grande palette de dynamique.
Oui, et par rapport à la projection aussi, c'est un piano qui se joue dans les salles de concert. La projection du son a beaucoup évolué également ces dernières décennies.
Tout à fait. Il faut remplir les grandes philharmonies. Ouais. C'est pas amplifié, évidemment. Et donc, justement, le brevet de la ceinture fait que pour les nouvelles salles, comme la Philharmonie de Paris, où on a un public à 360 degrés, comme la ceinture se met en vibration, elle projette aussi le son à gauche. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres instruments. Et on commence par fabriquer le piano par la ceinture, donc de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui complique très nettement bon nombre d'opérations, mais qui permet d'adapter sur mesure toutes les pièces à partir de cette ceinture.
Alors Enzo Ungauer, on va s'intéresser aux toutes nouvelles innovations des pianos Steinway qui font appel à la nouvelle technologie. Dans quelle mesure la technologie se mêle-t-elle au savoir-faire, à cette tradition de la facture instrumentale ? Quel rôle peut-elle jouer ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à ces pianos ? Parce que quand on pense à la facture instrumentale, on pense à la tradition, on ne pense pas aux nouvelles technologies.
C'est tout à fait vrai, c'était un gros challenge et un gros tournant pour Steinway d'intégrer de la technologie au sens de numérique dans le piano. Mais ça a été très très bien reçu parce que l'idée derrière, c'est vraiment celle de l'artistique. Le piano automatique, ça existe depuis un peu plus de 100 ans. Et ce n'est que très récemment que la technologie a permis de développer un système si précis qu'on peut reproduire à l'identique un toucher et un jeu de pédale d'un artiste.
C'est ce qui se faisait il y a très longtemps, par exemple, avec les rouleaux qui nous permet d'entendre, je sais pas, le jeu de Rachmaninov, par exemple.
Tout à fait. La technologie, dans l'idée, est la même. Le niveau de définition est tout nouveau.
C'est sûr.
Ce qui existait juste ici, en règle générale, c'était le signal MIDI. Donc, il y a 127 niveaux de dynamique entre le pianissimo et le fortissimo. Avec Spirio, la technologie Spirio de Steinway, on passe à 1020 niveaux de dynamique. Et on est allé encore plus loin parce que même sur les jeux de pédales, le système capte et reproduit 256 positions par pédale. Donc, c'est plus précis que ce que peut entendre l'oreille humaine. On a en quelque sorte inventé la 4K du système de reproduction purement acoustique. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir écouter, notamment pour des clients particuliers à la maison, les plus grands artistes chez soi et en acoustique.
Voilà, et parmi les plus grands artistes que l'on peut écouter grâce au système Spirio, des artistes d'aujourd'hui qui ont enregistré sur ces pianos Spirio que l'on va évoquer, mais également des artistes du passé comme Vladimir Horowitz. La rêverie des scènes d'enfants de Schumann, jouée par Vladimir Horowitz lors de son fameux concert de Moscou en 1986. Un jeu, le jeu de Vladimir Horowitz dans cette pièce de Schumann que l'on peut retrouver au catalogue Spirio. Spirio, c'est ce système des pianos, système moderne de piano Steinway que l'on évoque ce soir avec Enzo Ungauer. Dans quelle mesure peut-on reproduire sur un piano Steinway d'aujourd'hui le jeu de Vladimir Horowitz d'hier? Expliquez-nous cette magie.
Alors, c'est vrai que c'est assez troublant de prime abord. Il y a deux technologies. La première, c'est de enregistrer les artistes d'aujourd'hui. Donc on a deux studios d'enregistrement à Hambourg et à New York, nos deux manufactures. Avec un système de capteurs, on peut calculer la vitesse d'attaque des marteaux et les positions de pédales. Et ensuite, avec un système de reproduction, refaire ce que l'artiste a réalisé. Donc c'est la façon, entre guillemets, facile de le faire. Pour les artistes du passé, c'est une toute autre affaire. On a développé en parallèle un logiciel propre, qui est aussi breveté par Steinway, et qui permet d'échantillonner les enregistrements du passé. Grâce à la fréquence, on peut déceler quelle note est jouée et à quel moment. Et grâce au spectre du son, on peut savoir quel est le timbre de l'instrument et donc reproduire le toucher qui produit ce timbre sur le piano. Donc, on pourrait dire qu'il y a un petit côté intelligence artificielle par rapport à tout ça. Et ce qui est magique, c'est que ça permet de réécouter des enregistrements historiques qui parfois sont pas de très très bonne qualité sur un piano d'aujourd'hui et en acoustique.
Avec les touches qui s'enfoncent comme s'il était joué par Vladimir Horowitz aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc ce système Spirio, il est intégré au piano pour pouvoir écouter ces enregistrements. Il faut avoir un piano, on ne peut pas les écouter sur sa chaîne ou sur n'importe quel autre support.
Tout à fait. Et on doit, côté production, décider tout de suite si le piano sera un Spirio ou pas.
Ouais.
Parce qu'il y a un système qui donc s'intègre sous le plateau de clavier, qu'il n'est pas possible de rajouter ensuite. Et qui est intégré pour qu'aussi esthétiquement, il n'y ait aucun boîtier, rien de visible. Donc l'intérêt de ce système, c'est que ça ne change pas le toucher, ça ne change pas le son, et ça ne change pas l'esthétique du piano.
Et qu'est-ce que cela change par rapport à un enregistrement numérique, comme on a l'habitude d'entendre ? Il y a ce côté visuel, le fait de voir les touches du piano, puis le fait que le son sort du piano. Enfin,
c'est tout à fait ça.
Bah, j'ai la réponse dans ma question.
Il n'y a pas d'amplification, donc
oui,
il n'y a pas de système de microphone et de haut-parleurs. On a vraiment le marteau qui va frapper la corde, donc c'est comme si on avait Horowitz,
oui,
entre guillemets, dans son salon.
Et ce qui est très chic.
Ouais, c'est plutôt sympa. Et on a d'ailleurs fait jouer à l'occasion du lancement de cette technologie, c'était à la Philharmonie en 2019. On avait organisé un concert avec le pianiste Lang Lang, et il avait tenu à ce qu'un morceau d'Horowitz soit justement donné. Donc on a fait en quelque sorte la première de Vladimir Horowitz à la Philharmonie de Paris, ce qui est tout à fait anachronique. Et les gens étaient assez abasourdis parce que c'est une interprétation qu'on connaît et on reconnaît vraiment les inflexions de toucher et l'interprétation.
Beaucoup d'artistes, beaucoup de pianistes se prêtent au jeu, viennent enregistrer pour Spirio.
Oui, pour notre plus grand plaisir.
On a aujourd'hui... Ça les amuse, ça les intrigue.
Oui, je crois. Et aussi, il y a une dimension patrimoniale assez forte. Tous les artistes aiment enregistrer, évidemment, des disques. Et je vois Spirio un petit peu comme l'évolution de ça. Alors, évidemment, pour le piano solo, parce qu'on enregistre qu'un son, qu'un toucher de piano. Mais au-delà de laisser un enregistrement pour la postérité, on lègue son toucher.
Oui.
Et je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui intéresse beaucoup. Et même si on va sur des chanifies extrêmement haut de gamme, on reste sur de la reproduction. Tandis que là, on est sur de l'acoustique pure.
Ouais, il y a un côté troublant parce qu'il y a, une humanité en plus quelque part.
Tout à fait. Alors, de mon point de vue, ça remplace pas non plus l'expérience du concert. On est dans une grande salle, il y a l'acoustique de la salle, il y a la magie d'avoir l'artiste en face de soi. Sur Spirio, l'interprétation est toujours la même, comme sur un disque. Au bout d'un moment, on la connaît. Mais c'est très nettement, pour moi, l'évolution du disque.
Voilà. Et c'est un investissement important, les pianos Steinway dotés du système Spirio. Ce n'est pas ouvert à toutes les bourses, j'imagine.
Alors, c'est sûr que ça présente un certain montant. Néanmoins, voilà, c'est des instruments, encore une fois, qui sont réalisés à la main,
ouais,
un an par instrument. On a avant ça 2 ans de séchage des bois. Donc, nos ateliers coûtent. Et donc, ça se ressent dans les prix. Après, ce sont des instruments qui proposent aussi une valeur d'investissement. Dans le temps, les instruments gardent leur valeur, voire prennent de la valeur. Aujourd'hui, notre modèle demi-queue est le modèle très nettement préféré. Et pour Spirio, avec la fonctionnalité enregistrement, faut compter un surcoût d'environ 60 000 euros.
Ah oui, quand même. Donc, mais c'est un investissement.
Tout à fait. Et puis, c'est le prix pour avoir une centaine d'artistes à la maison, tels que Lang Lang, Jawang, encore Glenn Gould et autres.
Est-ce que vous organisez des démonstrations pour le public avec Spirio ou c'est uniquement pour l'instant dans le cadre privé?
Pour l'instant, ça reste assez confidentiel. On réalise des événements avec nos clients.
Ouais.
Bien que le système commence à faire parler de lui. C'est un système qu'on a lancé officiellement en 2015. Et il y a un projet en cours que je trouve absolument génial, qui va se dérouler avec Bertrand Chamaillou, qui a eu l'idée sublime avec le plasticien Henri Sala d'utiliser cette technologie, non pas dans un cadre privé pour écouter des grands artistes, mais pour l'utiliser de manière professionnelle, en enregistrant le concerto pour la main gauche de Ravel sur un premier piano enregistreur, donc Spirio, de le rejouer ensuite sur un second piano Steinway standard, avec le premier qui rejoue en même temps. Donc c'est tout à fait nouveau, c'est une façon de réinventer les pièces. Donc on entend les deux concertos pour la main gauche, c'est une création originale d'Henri Sala, d'avoir en quelque sorte deux mains gauches, comme pour remplacer la main droite qui manquait à ce concerto. Et la première a été donnée à la Bourse de Commerce en janvier, et c'est un projet qui sera à nouveau donné au Festival Ravel en fin août.
Voilà, donc vous pouvez imaginer avec différents artistes, différentes formes de concerts qui s'adresseront au public dans le futur.
Tout à fait.
On va se quitter avec une artiste qui a enregistré pour Spirio, c'est Yuja Wang.
Tout à fait, on l'adore. C'est une artiste Tenway depuis bien bien longtemps maintenant. Et je me permets simplement d'ajouter la toute dernière nouveauté qui s'appelle Spiriocast, parce que depuis quelques mois, on a la possibilité aussi d'écouter des concerts à distance en direct. Auparavant, c'était un catalogue préenregistré d'artistes. Et maintenant, par exemple, si Yuja Wang joue à Carnegie Hall,
on peut l'écouter en même temps et voir le piano reproduire le jeu de Yuja Wang.
C'est ça. Donc on transmet pour la première fois en direct, non pas une image et un son, mais un toucher. Et je peux vous dire que c'est assez troublant de le vivre.
J'imagine. Bon, on écoute Yuja Wang jouer la Carmen, les Carmen Variations de Bizet, variations signées Horowitz, justement. Merci beaucoup, Enzo Hungauer, d'être passé nous voir.
Merci, Laure.
Les étourdissantes variations sur Carmen de Bizet par Yuja Wang, captées en concert à Carnegie Hall, c'était en 2017. Yuja Wang, que l'on retrouvera d'ailleurs en concert sur notre antenne samedi 6 mai à 21h dans le concerto pour piano de Lindbergh avec l'Orchestre de Paris et Klaus Mäkelä, un concert capté le 13 avril dernier à la Philharmonie de Paris.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Direction Cleveland avec vous cette semaine.
Exactement, je vous propose une grande traversée vers Cleveland aux États-Unis pour y écouter son magnifique orchestre sous la direction de son directeur musical Franz Welser-Möst pour des concerts qui ont lieu le 27, le 28 et le 29 avril. Donc le maestro et ses musiciens proposent un programme qui associe le très connu à la découverte, à la création mondiale même. Alors côté grand répertoire, la fameuse et toujours irrésistible Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, cette partition flamboyante mais aussi tellement poétique dans son mouvement lent, naît des impressions sonores lors du séjour que le compositeur fit aux États-Unis dans les années 1980. Et quand l'œuvre est interprétée par une phalange de la qualité, de la diversité des timbres comme celle de Cleveland, des timbres soyeux et rutilants, caressants et profonds, le plaisir annoncé, on en est sûr, est immense.
Mais l'intérêt de ces trois soirées, Emmanuel, réside aussi dans les autres pièces au menu.
Oui, c'est tout à fait vrai. À commencer par la deuxième symphonie de Julius Eastman, ce compositeur qu'on a souvent qualifié d'enfant terrible du minimalisme américain et qui n'est pas forcément aussi connu chez nous que peut l'être Steve Reich ou Philip Glass. Il est né en 1940, décédé prématurément en 1990. C'était un artiste très multiple qui a eu une vie chaotique. Il aimait entremêler et parfois de manière assez provocatrice, car c'était un militant radical de la cause noire et de la cause homosexuelle, les sonorités et les effets de la pop musique dans laquelle il baignait au code de la composition savante. Il a travaillé aux côtés de John Cage, de Meredith Monk, de Peter Maxell Davis et d'autres, mais il a été assez oublié, largement, même à sa mort, pour n'être redécouvert que des années plus tard, une vingtaine d'années plus tard. Et donc, c'est vraiment une musique très, très percutante à redécouvrir. Et puis enfin, Franz Welser-Möst et son orchestre donneront une création, la création mondiale, du concerto pour trompette de Wynton Marsalis, avec en soliste Michael Sachs, qui est le trompette solo de l'orchestre de Cleveland. Alors, on imagine volontiers que lui-même extraordinaire trompettiste, Wynton Marsalis, offre à son instrument une partition qu'il met en lumière, peut-être en majesté, en tous les cas certainement en fusion avec le tutti orchestral. C'est un musicien qui est né en 1961 à la Nouvelle-Orléans. Il est tout autant compositeur que ce trompettiste virtuose que l'on connaît, qui navigue avec la même aisance du classique. On parlait avant le micro du concerto pour trompette de Haydn, par exemple, qu'il a enregistré, et évidemment un grand compositeur et interprète du jazz. Et ce nouveau concerto s'ajoute donc à son catalogue d'œuvres, où on compte aussi bien de la musique de chambre. Il y met particulièrement en honneur le basson, un instrument qu'il aime et qu'il associe au quatuor à cordes de façon tout à fait délectable. On peut penser à Mozart. Et puis des créations symphoniques, parfois avec chœur également. Donc c'est un compositeur tout à fait intéressant et dont le public de Cleveland et nous, par procuration, découvriront le nouveau concerto pour trompette ce soir et jusqu'au 29.
Voilà, la musique de Wynton Marsalis et celle de Julius Eastman. Evil Nigger, une pièce de Julius Eastman, compositeur à l'affiche, dont une symphonie en tout cas sera à l'affiche des prochains concerts de l'orchestre de Cleveland. Cleveland, d'où vous nous avez emmené cette semaine, Emmanuel. Merci pour ce voyage.
Merci à vous.
Et à la semaine prochaine, merci à Diane Chambriard pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie d'Hélène Cao. Hélène Cao qui a signé un remarquable ouvrage consacré à une figure assez fascinante de la musique française, la compositrice Augusta Holmès.
Oui, un livre à lire vraiment.
Voilà, et nous découvrirons sa vie très romanesque d'ailleurs. Très belle soirée à tous, une soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.